Un jour, j'ai rencontré des chrétiens avec lesquels j'ai prié, et l'un d'entre eux, c'était un vieux monsieur, il a fait cette prière: « Seigneur, fais de nous des artisans de paix ». Et c'était la première fois que j'entendais cette expression « des artisans de paix ». En fait, il voulait dire « fais de nous des hommes, des femmes qui attirent la paix, qui recherchent la paix, qui la gardent et qui la construisent ». Et sa prière, elle m'a vraiment beaucoup touché. Récemment, je lisais les Proverbes et j'ai vu que le Seigneur nous donne beaucoup d'instructions pour être des artisans de paix. La paix, elle est difficile à avoir, et quand on la possède, elle est difficile à conserver. C'est vraiment un fruit précieux qui est très difficile à conserver. Mais le Seigneur nous instruit et il nous montre comment l'avoir et comment la conserver, comment la garder. Donc le titre de mon message ce matin, c'est l'artisan de paix des proverbes. Comment un artisan de paix, selon les proverbes, travaillera-t-il pour bâtir la paix? Est-ce que nous sommes déjà des artisans de paix? Ou bien dans notre cœur, il y a des travers qui sont susceptibles d'amener au contraire la guerre, la division ou la querelle? Alors j'ai classé certains proverbes par domaine, et on va voir 4 domaines ensemble sur lesquels on peut œuvrer pour devenir des artisans de paix. Nous sommes un corps vivant, c'est ce que la parole de Dieu dit, hein, le corps de Christ, les chrétiens, sont un corps vivant, avec des personnalités complètement différentes, une maturité qui est différente, des âges différents, des habitudes différentes, des éducations parfois différentes. On vit aussi des choses différentes qui nous amènent à avoir des opinions différentes, tout en tant que cas qui rendent la paix fragile, très fragile. Et il n'est pas surprenant de voir des conflits, des heurts, des frictions les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est normal. Mais c'est plutôt la manière de gérer les différends qui est importante. Et c'est un miracle de Dieu de nous garder tous ensemble unis, alors qu'on est vraiment, vraiment différents. Mais pour ça, c'est impératif que nous, on veuille être des artisans de paix. Alors le premier domaine que j'aimerais aborder, c'est celui de la langue. Jacques nous dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc il faut se méfier de notre langue. C'est un petit organe, tout petit, mais qui est à surveiller de près. Parce que c'est par elle, premièrement, que vient le mal. C'est elle qui détruit la paix. C'est elle qui entretient la guerre. Prenez un premier proverbe. On va voir beaucoup de proverbes ce matin. Proverbe 10. Proverbe 10 et verset 19. Il est dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Et Dieu nous a tous fait différents. Pour certains, ils ne sont pas volubiles du tout, c'est-à-dire ils ne parlent vraiment pas, ils sont assez discrets, en retrait. Et puis d'autres, au contraire, sont intarissables en parole. Ils ne supportent pas qu'il puisse y avoir un silence, alors ils veulent combler les silences. Mais finalement, Dieu nous veut sûrement équilibrer. Que celui qui est timoré, qui ne parle pas, eh bien, le Seigneur veut l'amener à parler davantage. Et puis celui qui parle beaucoup trop, le Seigneur veut l'amener à se taire. Il veut l'amener à se taire parce que justement, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Forcément, quand vous parlez, et puis que les sujets de conversation que Dieu met sur notre cœur, les bonnes choses, quand elles finissent par être épuisées, quand on a fait le tour, eh bien on glisse vers des choses que Dieu ne peut pas forcément qu'on aborde. Et parce que, bien, on parle, et puis hop, un mot en amène un autre, la conversation avance, et on fait le contraire de l'œuvre de Dieu. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste, un temps pour parler et un temps pour se taire. Alors qu'on puisse être à l'écoute du Seigneur et savoir peser, choisir nos sujets de conversation. Prenez Proverbe 17, verset 18. «
C'est pas ça.
Bon, c'est pas ce verset-là. Ne regardez pas ce verset, c'est pas celui-là. J'ai mis une mauvaise référence. Je vous le lis. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et plutôt que de dire une bêtise, il vaut mieux se taire. Oui. 17:28. Merci. Voilà. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et donc, plutôt que de dire une bêtise, il vaut mieux se taire. Le contrôle de sa langue ou la capacité de se taire, c'est l'intelligence. C'est celui qui est intelligent qui arrive à faire ça. L'artisan de paix, il ne peut être que quelqu'un qui contrôle sa langue. Il sait la maîtriser. Paul s'est plaint dans la première épître à Timothée de femmes qui allaient de maison en maison et il dit causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, elles parlaient. Elles allaient de maison en maison et elles ne manquaient pas de péché. Elles n'arrêtaient pas de pécher même, à force de parler. Parce que tout était rapporté, déformé, amplifié. Et ça, c'est ce qui nous arrive quand nous parlons de trop. Eh bien, on déforme, on amplifie, on change un peu et finalement, ce n'est pas la réalité. Prenez Proverbe 11, verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Ici, c'est le cas d'une personne qui parle beaucoup, mais qui en plus a le défaut de mépriser son prochain. Et cette personne, elle parle dans le but de détruire, elle veut détruire, elle veut enfoncer, critiquer son prochain. Elle veut lui faire du mal par ses lèvres, par ses paroles. Dieu condamne cette personne, il dit elle est dépourvue de sens, elle n'a pas de sens. En fait, elle est insensée. Et encore une fois, l'intelligence, on le lit, se trouve dans celui qui sait se taire. Quand bien même on n'approuve pas quelqu'un, l'intelligent ne méprise pas par ses paroles. Ailleurs, il est dit que celui qui méprise son prochain, commet un péché. Voilà. Mépriser son prochain, c'est un péché. Dieu nous le défend. Et la langue, elle peut toujours prendre deux directions. Elle peut faire le bien ou elle peut faire le mal. Jacques l'a dit, qu'elle peut bénir ou elle peut maudire. De la même source peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Et il dit à la fin, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et l'artisan de paix, il réfléchit avant de parler. Il ne parle pas à la légère. Prenez Proverbe 12, verset 18. Il est dit, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Et l'artisan de paix, il fait le choix de ne pas lancer des piques, mais d'apporter la guérison. Il ne veut pas blesser par sa langue, mais il veut guérir les situations. Et notre langue, elle a vraiment le pouvoir d'aggraver une situation ou de la guérir, d'amener la guérison. La désamorcer. Vous savez, dans les situations de crise où il y a un fou qui prend un fusil et qui se met à tirer dans la foule ou bien quelqu'un qui menace de se faire sauter avec une bombe ou qui veut se suicider, on fait appel à des spécialistes, des gens qui savent parler aux autres et qui savent amener avec leur langue, avec leurs paroles, avec de la douceur, de la sagesse, la réflexion, amener la personne à se rendre d'elle-même. À dire, eh bien, bon, c'est tout, je ne ferai pas sauter la bombe, etc. Et on voit que la langue, elle a un pouvoir pour influencer vers le bien ou influencer vers le mal. Et puis, au contraire, on voit des gens qui prêchent dans la rue, et puis, au bout de 2 ans, quelqu'un qui a bien écouté, il s'en va en Afghanistan, et puis, 1 an plus tard, il se fait sauter avec une bombe dans un bus. Voilà. La langue qui a prêché, qui a annoncé quelque chose, ou bien la langue qui apporte la guérison. Alors, quelle langue nous souhaitons avoir? Une langue qui guérit, ou une langue qui, au contraire, provoque la guerre, provoque la division, ou qui blesse?
Ailleurs, on lit dans un proverbe, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie, elle amène la vie, elle engendre la vie. Et si on sait que notre langue prend parfois la mauvaise direction, si elle élargit la plaie au lieu de la guérir, il faut se reprendre et décider de changer, parce que c'est quelque chose qui est grave. Et si jamais nous sommes entraînés par quelqu'un qui méprise son prochain, parce que ça arrive aussi, si jamais on nous pousse finalement à dire du mal, à blesser par notre langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez Proverbe 20, verset 19. Proverbe 20, verset 19, il est dit « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » Il faut s'écarter. Autant que ça nous est possible, il faut que nous, on apporte par notre langue la guérison. Mais si on voit que la guérison n'est pas possible, il faut s'écarter. Ou si on voit finalement qu'on n'arrivera à rien, alors Dieu nous encourage à ne pas écouter celui qui médit les autres. Fermez ses oreilles. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre les lèvres. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et on est tout autant responsable de ce qui sort de notre bouche que de ce qui rentre dans nos oreilles. Le mal n'est pas la nourriture de l'artisan de paix. Il s'écarte de celui qui médit. Parce que le mal, c'est une infection qui contamine petit à petit. Et on peut commencer à avoir un jugement qui est complètement faussé, simplement parce qu'on écoute des calomnies, on écoute de la médisance, on apprend des secrets. Il est dit, ne te mêle pas avec celui qui ouvre les lèvres. Et parfois, il faut du courage pour dire à ceux qu'on aime, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Il faut du courage pour dire, n'en dis pas plus, c'est pas la peine. Il faut veiller sur notre langue, veiller sur nos oreilles. Deuxième domaine, la miséricorde, l'amour et la paix. L'artisan de paix, c'est nécessairement quelqu'un qui recherche la paix, le pardon, l'amour. Et là encore, Dieu nous donne des bons conseils. Prenez Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Il est dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » La haine de quelqu'un, elle va exciter, provoquer, entretenir des querelles. On peut comme cela garder une division entre deux frères pendant 10 ans, et puis 20 ans, et puis 30 ans. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, divisés, mais divisés jusqu'à l'éternité. Simplement parce que l'un a pris l'autre en haine, et puis ben, vice-versa, il n'y a plus personne qui est prêt à faire la paix. Ça, c'est le péché qui excite des querelles. C'est la vieille nature qui est corrompue, qui est mauvaise, qui est hideuse, qui est égoïste, destructrice. Mais au contraire, celui qui marche dans l'amour de Dieu, il couvre toutes les fautes. Il est miséricordieux comme son Père est miséricordieux. Quand on aime, on n'étale pas la faute de quelqu'un. Quand on aime, on la passe sous silence. Regardez dans un couple. Quand l'un fait une faute, l'autre ne va pas aller commencer à dire « Ah, mon mari ou ma femme a fait ça. » Non. Le mari ou la femme va couvrir la faute de l'autre parce qu'il l'aime. Il n'a pas envie que, eh bien, on puisse apprendre ça de l'autre. Ça, c'est l'amour. Alors que quand on est, au contraire, on révèle, on le dit, on en parle, on veut que ça sache, pour provoquer encore plus de haine. Prenez Proverbe 16, verset 28. L'homme perverse excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. C'est le méchant, c'est le perverse qui excite des querelles. Il rappelle les choses du passé. Il rapporte tout ce qui peut contribuer à détruire quelqu'un. Et ainsi, il arrive même à diviser des amis. Parce que, on l'a dit, le mal, c'est quelque chose qui est contagieux. La parole est influente et elle peut pousser quelqu'un dans la direction de la haine. Il suffit de quelques paroles dites de la bonne manière, avec conviction, appuyées par deux faits ou pseudo-faits parfois, et on entraîne quelqu'un d'autre dans sa pensée, et dans une pensée qui est complètement faussée. Et malheureusement, nous sommes sensibles à tout ce qui est rapporté. C'est incroyable. En nous, on aime les paroles du rapporteur. Prenez Proverbe 18:8. 18:8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Personne n'a de mal, en général, à manger des bonbons, hein, des friandises. Nous, avec Kimberly, là, cette semaine, on a donné, vous savez, les petits nounours, là, les petits bonbons, on a coupé en deux, on en a donné à Ketsia. Elle mâchouillait, elle tournait ça dans sa bouche, elle s'est régalée. Et c'était un bonheur de la voir, parce qu'il y avait le bonheur sur son visage de manger du sucre. Eh bien, les paroles du rapporteur, c'est pareil. Il y a autant de bonheur à aller les chercher. On aime les écouter. On aime apprendre les choses sur un tel et un tel et un tel, et il a fait ça, et elle a fait ci. Et il suffit de voir une conversation où on est en train de parler, justement, de rapporter sur quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient, et puis un deuxième, et un troisième. Et finalement, on se retrouve à être tout un attroupement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de quelqu'un. Si on était en train de parler de, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, de football, ou... il serait resté à deux. Mais parce que, eh bien, on dit du mal d'un autre, alors, eh bien, hop, ça devient intéressant. Ça, c'est triste, mais c'est une réalité. Ça se passe comme ça. L'artisan de paix, il n'est pas un rapporteur. Proverbe 17, verset 9. Il est dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et on peut comme ça garder de la rancune, des griefs, pendant des décennies. Et à chaque occasion de rappeler la chose, on ne se prive pas de le faire. Hop, on rappelle la chose à son frère ou à sa sœur. Simplement parce qu'il y a de la haine dans notre cœur vis-à-vis de cette personne. Alors elle se manifeste, ponctuellement. Et encore une fois, rappeler une faute, c'est aller dans la division, dans le sens de la division du corps de Christ. C'est comme ça qu'une église, elle peut se briser en deux. Alors que celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Il manifeste la miséricorde de Dieu. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Et l'artisan de paix, il n'entretient pas le feu de la haine. Il n'alimente pas la rancœur et l'amertume. Mais au contraire, il fait tout pour l'éteindre. Et il faut parfois décider d'arrêter de mettre du bois dans le feu, quoi. Il faut que ça s'éteigne, il faut que ça s'éteigne. Il faut cesser d'en parler, cesser de rappeler la faute, hein, et le feu va s'éteindre et la querelle va s'apaiser. Un troisième domaine dans lequel on doit être un artisan de paix, c'est la justice. On a vu que par notre langue, on peut amener la guérison, on peut amener la vie, conduire vers la paix. Et certains s'amusent à diviser les amis, mais l'artisan de paix, il cherche au contraire à les réconcilier. Mais pour ça, il est très important d'avoir un regard qui est juste. Par exemple, un conciliateur entre deux parties, il se doit d'être équilibré et juste vis-à-vis des deux parties. Il faut qu'il traite le problème sans préjugés, sans a priori, sans parti pris, sinon c'est voué à l'échec, c'est même pas la peine. Il ne peut pas être penché pour l'un, il sera plus équitable. Prenez Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout le coupable, celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Et ça, c'est très fort comme verset. Dieu ne sera pas d'accord avec nous si nous avons des préjugés sur quelqu'un et si nous le condamnons sans savoir réellement quel est le problème, toutes les sources du problème. Et de la même manière, Dieu va nous réprouver si nous, on justifie un coupable. Et parfois, parce qu'on se contente de quelques informations, peut-être les paroles d'un rapporteur, hein, alors on se fait une opinion et on juge, on tranche. C'est clair, c'est net. Hein, et ensuite, c'est terminé. L'un sera nécessairement toujours juste et l'autre sera nécessairement toujours coupable. C'est déjà réglé. Mais Dieu n'est pas d'accord, n'est pas d'accord avec cette pensée. Prenez Proverbe 20, verset 10. Il est dit, « Deux sortes de poids et deux sortes d'épha sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Et il ne faut pas que nous jugions les personnes différemment. » Salomon avait remarqué que certains fidèles de son royaume étaient doubles. Ils faisaient du commerce, mais ils avaient deux types de poids. Alors, il y avait les poids, par exemple, avec lesquels ils achetaient, et puis les poids avec lesquels ils vendaient. Ce n'était pas les mêmes. Ou bien les poids avec qui ils faisaient commerce avec les amis, puis les poids avec lesquels ils faisaient commerce avec les étrangers. Le poids avait toujours la même dimension, mais la densité n'était plus la même. Et pour les amis, c'était lourd, la balance se remplissait bien correctement, et pour les étrangers, c'était léger, hop, était vite rempli, terminé. Et ça, c'était une abomination à l'Éternel. Dieu détestait ça. Et de la même manière, il déteste que nous, ses enfants, on puisse avoir deux poids et deux mesures. Que nous soyons durs avec l'un, qu'on ne laisse pas passer la moindre chose, et puis qu'on est très indulgent avec l'autre. Dieu déteste ça. Proverbe 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Et c'est vrai, le premier qui parle dans sa cause, il paraît toujours juste. Forcément. Parce qu'il défend sa position. Alors il explique tel que lui, il l'a vécu. Et de par le fait qu'il y a du péché aussi dans son cœur, il n'est pas toujours très objectif. Il déforme parfois son avantage, il minimise ses fautes, puis au contraire, il relève les fautes de l'autre. Mais vient sa partie adverse, et là, on l'examine. Là, on peut peser. Il faut nécessairement écouter l'autre partie pour bien comprendre un problème et pour pouvoir juger équitablement. Notre tort, c'est de donner tout de suite du crédit à celui que l'on aime. Et puis au contraire, on ne donne pas le crédit à celui pour lequel on n'a pas d'affection. On le considère comme déjà coupable. Mais ça, ce n'est pas juste. Dieu dit, ce n'est pas juste. Vous savez, le jugement de Salomon, qui est maintenant une référence en matière de droit, Sarah nous le dirait, qui fait du droit à l'université, Salomon n'a pas fait venir une seule femme pour l'entendre dire l'histoire, et puis après pour juger. Il a fait venir les deux femmes, il a écouté les deux femmes, et après il a vu clair. Et c'est souvent comme ça. C'est quand on confronte les deux, on les met ensemble, on les écoute, alors là, on commence à voir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Qui dit juste, qui a tort en fait. Hein. Pour démêler une histoire, il faut confronter. Et là, on y voit plus clair. Hein. S'il y a un problème entre deux personnes, l'artisan de paix, il ne prend pas parti sans avoir tous les éléments dans ses mains. Quatrièmement, l'artisan de paix, il doit aussi savoir reprendre si nécessaire. Et la solution, elle n'est pas toujours quand on garde le silence. Il faut parfois être clair et aider la personne à voir ce qui ne va pas. Il faut mettre le doigt dessus là où ça fait mal. Prenez Proverbe 27, verset 5. Il est dit, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée, ou qu'un amour secret. » Certains l'ont traduit comme ça. Ça signifie qu'une vraie amitié, un vrai amour, il sait reprendre celui ou celle qu'il aime. Il va savoir lui dire, attends, là, c'est pas juste ce que tu dis là, hein. Tu as pas raison. Vous savez, c'est pas une vraie amitié quand on est toujours, oh, tu as raison, oh, ben, je te comprends bien, oh, ben, c'est pas juste. Hein. Et finalement, on abonde toujours dans le même sens. Alors que, eh bien, des fois, on voit où la personne n'est pas juste, pas, simplement par le fait de dire certaines choses. Si on aime vraiment, eh bien, on va dire à son ami quand ou elle a tort ou il a tort. Hein. Quand elle se trompe sur son jugement, quand elle va trop loin. Proverbe 28, verset 23. Il est dit, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Il y a encore une vérité qui est importante. Ce n'est jamais facile de reprendre quelqu'un que l'on aime. C'est jamais facile de lui dire tu as tort. Mais finalement, celui qui a été repris, quand il se rend compte de ses torts, il finit par être reconnaissant d'avoir été repris. Reconnaissant de ce que son ami n'a pas laissé s'égarer. C'est le devoir de l'amour que de reprendre. Les parents prouvent leur amour vis-à-vis de leurs enfants en les reprenant, en les corrigeant. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Et les enfants, vous savez, ils ne s'y trompent pas. Hein. Ce sont les parents les plus aimés que ceux qui ont repris leurs enfants. Et au contraire, les parents qui laissent, c'est ceux qui sont le moins aimés. Parce qu'ils ont besoin d'être repris. Et ils savent, finalement, où est le vrai amour. Réprimander, c'est aimer. Et ne rien dire, est-ce que finalement, c'est ne pas haïr ? On peut se poser la question, réfléchir. Proverbe 17, verset 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. La réprimande, c'est quelque chose qui est salutaire. Parce qu'elle nous aide à ouvrir les yeux sur notre péché. Le péché aveugle. Et quand nous le commettons, on ne réalise plus combien on est en train de s'égarer. Mais grâce à la réprimande, on peut ouvrir les yeux de nouveau. Et il faut avoir confiance que même si la réprimande fait le mal, même si elle est dure à dire, elle est salutaire, elle est bonne et il faut la dire. Elle est finalement une bénédiction pour l'homme intelligent. Alors, est-ce que nous sommes ou est-ce que nous voulons être des artisans de paix? Si on veut la paix, une paix profonde, une paix durable dans notre Église, alors il faut prendre la décision d'être un artisan de paix. Il faut vouloir obéir à la parole de Dieu. On a lu la parole de Dieu, tout ce qu'elle dit. Obéir au Seigneur lui-même pour qu'on puisse devenir un artisan de paix. Premièrement, en gardant sa langue de médire, de dire du mal, ou d'entretenir du mal, d'entretenir la suspicion, d'entretenir l'amertume. L'artisan, il se sert de sa langue pour calmer, adoucir, apaiser, apporter la guérison. Deuxièmement, il faut rechercher l'amour en couvrant les fautes, du passé. Notre Seigneur a dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne colportons plus le mal, ne rapportons plus les chutes du passé. Souvenons-nous, faute de bois, le feu s'éteint. Terminé. Troisièmement, un artisan de paix, c'est quelqu'un qui a un regard juste. Si on veut agir ou prendre parti, alors il faut qu'on soit honnête devant Dieu, sans trancher, sans condamner l'innocent et absoudre le coupable. Ça serait une abomination devant Dieu. Et puis pour terminer, n'hésitons pas à reprendre celui que nous aimons si on est convaincu qu'il est en train de se tromper. Il y aura peut-être une vive réaction au début, mais finalement, à la fin, il va nous remercier. Prenez un dernier proverbe pour conclure, c'est 13, 10. Proverbe 13, verset 10. « Il est dit,
c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles.
Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils.
C'est seulement par orgueil.
C'est le péché en nous qui se plaît à exciter, à quereller, à entretenir. Et
c'est le péché. Il faut le condamner.
Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alors sachons écouter les conseils de Dieu, les conseils des proverbes, pour être des artisans de paix dans cette église. Voilà, on va s'arrêter là, on va s'incliner dans la prière.